Le trattato terzo, dunque la nous énonçons Savonarole énonce à ses lecteurs donc les choses qu'ils doivent et peuvent faire pour améliorer. Hein, vous savez que son expression est donner sa perfection, dare perfezione. Hein, al governo civile, dare perfezione al governo civile. Des termes qui reviennent souvent dans les, hein, des termes qui reviennent souvent dans les divers sermons. Limare, correggere, ricorreggere, dare perfezione. Hein, donc ici. Vous avez donc l'idée que, eh bien, on peut mettre réfléchir à la façon d'instituer, de faire fonctionner le gouvernement, le governo civile. Mais pour ça, les citoyens doivent, hein, doivent faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est les deux chapitres qui commencent le Trattato Terzo. Et puis vous savez que ça se termine donc par une espèce de reprise de l'ensemble des éléments de l'ensemble du texte là, qui donne une espèce de tableau final. Hein, tableau final sur le bonheur d'un côté, hein, la felicità pour ce bon governo civile, pour ce chef de la cité, ce signore della città che va être le Consiglio Grande, tout le bonheur et tous les maux, toute la misère, tous les maux pour les tyrans et leurs partisans. Hein, voilà. C'est un jugement dernier, hein, évidemment, les derniers chapitres. Hein, à droite du père, à gauche du père. Et on est revenu à une bipartition complète, les damnés et les élus. La mise en place sur des siècles de la réflexion sur les différentes formes du gouvernement, là, à la fin, c'est un jugement dernier, quoi. C'est à ça qu'on aboutit. Alors, on reprend rapidement les chapitres. Donc, comment faut-il introduire, instituer et faire fonctionner ce gouvernement civil? Alors, notez bien que ça se fait sur un choix et une expulsion, enfin, hein, la ragione, hein, la raison, hein, qui permet de comprendre, enfin, de raisonner, de mettre en place les façons d'agir, eh bien, elle s'oppose, ou en tout cas, elle ne permet pas de penser, elle exclut de son raisonnement la force. Hein, quand même intéressant que. Ce troisième traité s'ouvre sur cette expulsion de la question de la force comme question théorique. Question de la violence est exclue. Alors, il y a une des raisons, hein, que d'ailleurs Machiavel mettra en évidence dans une incise, hein, de son passage dans les discours où il explique comment ni Savonarole ni Piero Soderini n'ont été capables de spegnere l'invidia. Il explique que voilà, Savonarole, c'est pas qu'il comprenait pas. Il comprenait très bien. Et il y a l'incise, c'est « Che fu il frate ?» Est-ce que précisément, c'est pour ça qu'il ne peut pas? parce qu'il est frate. Et que ça, s'occuper des questions de la violence, ah bon, là, c'est sortir de l'officio mio. Hein. Hein? C'est sortir totalement de l'officio mio. C'est vraiment être en dehors, hein, en dehors totalement de ce que peut faire, hein, dans le domaine de la politique et de la guerre un religieux qui est fou, il frate. Et le frère, donc, il n'a pas pu. Pourtant, commente Machiavel, non pertanto per lui non rimase. Hein? Il a pourtant rien laissé de côté pour que ça marche. Et les sue prediche sono piene di accuse contro i savi del mondo. Hein? Perché nominava così questi invidi. Ces gens qu'il faut éteindre. Vous vous rappelez qu'éteindre, ça ne veut pas dire souffler dessus. Hein? Ça veut dire. Ouais. Mais voilà, il n'a pas été compris par les siens. Les siens n'ont pas su le faire, n'ont pas eu le courage de le faire, etc. Hein? En tout cas, lui, per lui non rimase, il avait très bien compris. Mais fu il frate, donc c'était un religieux. Et donc, du coup, c'était difficile. Alors là, vous voyez que son avancée dans la réflexion ensuite, et une fois qu'il y a cette mise de côté là, de cette question qui n'est jamais posée en tant que question élucidable par la pensée religieuse, les armes de la théologie ou celle de la philosophie, et que du coup, n'étant pas traités là, ne sont pas vraiment traités sur le terrain. Hein, un point sur lequel éventuellement, non, je reviendrai parce que c'est un point important ce rapport-là. Non, mais en tout cas, dans le traité, ce qu'il faut noter, c'est cette mise à l'écart. Ensuite, donc voilà, il y a une avancée assez simple. La question qui se pose n'est pas la question de l'argent. Ouais, quand même, quand Machiavel dit hein, un frate versuto. Un malin singe, quoi. Hein? C'est vraiment un malin singe. C'est-à-dire, tu vois, de ce côté-là, il y a, à Florence, il sait qu'il ne peut pas aller dire le danger, c'est les riches. Hein? Essendo la maggior parte ricchi. Donc, il fait l'argumentation pour dire c'est pas la richesse qui est un problème, parce que, précisément, comme à Florence, la maggior parte, essendo la maggior parte ricchi, hein? Quelqu'un même très riche pourra pas être suffisamment riche pour en imposer aux autres, comme ils sont tous riches. Hein? Et donc, les gens n'accepteront pas de laisser l'un d'entre eux se faire supérieur hein, à eux, alors que précisément parce qu'ils sont eux aussi riches, hein, si reputano equali. Vous avez là la présence hein, de ce terme. L'égalité, hein, sur laquelle, évidemment, il ne faut pas faire le contresens de lui donner le sens post-révolutionnaire français, parce que là, on fait une grosse erreur. Enfin, même dans le sens post-révolutionnaire français, on pourrait périodiser, hein, parce que, par exemple, pour que les femmes soient égales, il faut encore attendre un petit bout de temps entre la Révolution française et le moment où il y a le droit de vote, par exemple. Hein, on est tous égaux, mais encore à ce moment-là, au moment même où c'est énoncé, vous voyez que les... Voilà, les domestiques n'ont pas le droit de vote. Hein, les femmes n'en parlent pas. Il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ouais. Alors, pour eux, equali, c'est ce groupe des cittadini, qui est si reputano equali. Hein, c'est très clair. Alors, la question, dit-il, ça n'est donc pas la richesse. Vous voyez bien le pragmatisme de cette réflexion. Hein, et La vraie raison, c'est la façon de dare i benefici e uffici e dignità della città. Hein, c'est donc la répartition des offices. Hein. C'est cette distribution des charges, distribution des offices, qui garantit la dignité et réputation des citoyens. C'est donc dans le refus de la confiscation de cette attribution des charges et des offices par une seule personne ou une seule famille ou un clan ou une faction que se joue la préservation des deux piliers qui fondent la tradition républicaine, la liberté et l'égalité. Et donc là voilà, on a la mise en place, donc très clair à partir de là, de il faut qu'il y ait un lieu où des citoyens recevant leur autorité de tout le peuple et un nombre suffisant de citoyens de façon à ce qu'ils ne puissent pas être corrompus parce qu'ils sont trop nombreux, donc on ne pourrait pas tous les corrompre, etc. Un grand nombre, mais quand même pas trop, parce que sinon, vous voyez, la deuxième exclusion intéressante dans le discours, dont vous avez parlé à plusieurs reprises, parce que c'est l'exclusion de la plèbe, l'exclusion de la plèbe, perché forse la plebe vorria ingerirsi al governo, la quale presto partorirebbe qualche disordine. 120 ans après, ils s'en souviennent encore de la plèbe quand elle veut s'ingérer dans les choses du gouvernement. 120 ans avant, évidemment, 1378, le tumulte des Ciompi, qui reste comme ça, ce moment où la plèbe, justement, surgit dans la politique florentine. Et alors, c'est vraiment la chose, on ne veut plus en entendre parler de cette histoire. Rappelez-vous que dans une note marginale d'un des feuillets qui compose un texte qu'il écrit autour de 1530, Francesco Guicciardini dit à propos de cette plèbe de 1378, cette plèbe est en tumulte, il écrit « Non rubavano, ma ardevano le cose ». Le truc le plus incompréhensible pour un patricien, de ces gens riches, de ces riches marchands florentins, c'est que, vraiment, qui prouve l'irrationalité fondamentale, le caractère quasi animal de la plèbe, c'est que ces cons-là, ils pouvaient voler, et ils ne volaient pas, ils brûlaient. Évidemment, l'idée que derrière ça, derrière cet acte-là, il peut y avoir de l'intelligence politique, ne saurait venir à l'esprit d'un patricien florentin. Faut bien être clair, il y a un horizon de capacité d'analyse. Mais vous voyez bien que c'est ça le choc. Donc là, lui aussi, force la plèbe vorria ingerirsi al governo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire il Consiglio Grande. On va limiter le nombre des citoyens de façon à ce que personne qui puisse être dangereux et qui puisse risquer de le disordinare, de le mettre en désordre, ne puisse y rentrer. Voilà. Et cela, on l'appelle El Consiglio Grande. Et ce Consiglio Grande, il est il Signore della città. Il Signore della città. Et alors bon, là, il nous a convaincus de faire un Consiglio Grande, il y est déjà. Di poi che è creato, è necessario fare tre cose. Les trois choses. Intéressantes les trois. Vraiment intéressantes les trois. Prima, stabilirlo con debiti modi e fortissime leggi, a ciò che non gli possa essere tolto il Stato. On va y revenir dans un instant. Secondo, si debba provvedere che tale signore non possa diventare tiranno. Terzo, bisogna provvedere che non sia troppo aggravato. Allora, le trois sont intéressants, là. Les trois remarques sont intéressantes. La question des debiti mordi, hein, une question intéressante. Il y a des choses qu'il faut faire, hein, il y a des choses qu'il faut faire, mais ces choses qu'il faut faire, eh bien, très souvent, il faut les penser. Il faut les penser au fur et à mesure. Hein, l'expression est vers la fin de ce paragraphe-là. Secondo che la esperienza va dimostrando di mano in mano. Hein? Et ça, c'est vraiment hein, l'utilisation de l'expression di mano in mano, mais ça peut être aussi a poco, hein, a poco, etc. Vraiment des expressions récurrentes. Et l'intérêt aussi pour l'experienza, hein, le travail d'expérience. L'expérience, voilà. Donc, ces debiti mordi, c'est évidemment quelque chose qui s'oppose. Hein. Des choses qui arrivent parfois dans les sermons, etc., qui seraient un peu une espèce de chose qu'on pourrait appeler une radicalité de la transformation absolue qu'on a un peu en tête quand on pense à Savonarole. Hein. On a un peu Il y a une espèce d'excité, quoi. Le moine illuminé, quoi. Il est là, il fout le feu à tout le monde. Enfin, quand on regarde les textes, on a plutôt cette terminologie-là qui est quand même très différente, quoi. Experienza, poco a poco, di mano in mano, etc. Alors, bien sûr, il y a les trucs du genre, il faut des lois très fortes, il faut punir, comme on l'a déjà lu tout à l'heure, etc. Hein? Debiti mordi, fortissime legge. Bon. Mais enfin, en même temps, bon voilà. Hein, il faut que les gens puissent soient obligés de le faire s'ils ne veulent pas le faire per amore, qu'ils le fassent par forza. Mais, voilà. Hein, derrière, il y a une pragmatique de la pratique de gouvernement. Hein, une pensée pragmatique, beaucoup plus qu'une pensée de la radicalité de la transformation. Alors, dernier point à commenter, parce que là, il y a quand même un point à commenter, on y reviendra, parce que cette définition de stato dans nos auteurs est complexe. Moi, je tiens que, en tout cas, dans le traité, il y a un usage de stato qui n'est pas encore l'usage que fera en tout cas Machiavel et en tout cas Edi Chardin. Hein? Et que là, le sens de stato avec des choses qui ont à voir avec la façon d'aller, etc., de mettre en place un système de gouvernement ou bien quelque chose qui est une force qui doit permettre de mener la guerre, etc., qui est présent dans les textes de Guicciardini et de Machiavel, n'est pas présent dans le texte de Savonarole. Voilà. Et alors, là, j'ai repris les expressions avec stato dans le passage, dans un passage du Trattato Secondo, deuxième chapitre, hein, où vraiment très clairement, là, alors mais évidemment, c'est le tyran, c'est à propos du tyran. Mais là, très clairement, ça veut pas dire, ça n'approche pas indécence d'état. D'indécence d'état qu'il y a dans Machiavel ou Guichardin. Hein. Donc je vous lis ce passage parce qu'il est, il est assez clair. Bon, c'est le tyran, mais enfin le tyran, c'est quand même le seigneur local. Hein. Donc là, de la même façon, le grand conseil, c'est il signore della città. Hein. Ouais. Donc je vous lis le passage de traité 2, chapitre 2. E da questo seguita che il tirano abbia virtualmente tutti i peccati del mondo, prima perché ha la superbia, l'usura e l'avarizia, che sono le radici di tutti i mali. Secondo, perché avendo posto il suo fino nel stato che tiene, non è cosa che non faccia per mantenerlo, e però non è male che lui non sia apparecchiato a fare quando fosse al proposito del stato, come la esperienza dimostra, che non perdona il tirano a cosa alcuna per mantenersi in stato, e però in proposito o in abito tutti i peccati del mondo. No? Voilà. Et vous voyez que, alors on revient à ce chapitre 1, traité 3, un peu plus loin. Simili altre leggi, pene, provisioni bisogna fare, secondo che l'esperienza va dimostrando di mano in mano, per firmare il consiglio e stabilire il stato del signore della città. Donc là, vraiment, l'impression que j'ai, sous réserve d'une vérification beaucoup plus exhaustive, mais franchement, là, je ne crois pas me tromper, que c'est plutôt le sens de la position, hein, la situation dans laquelle on est, la position qu'on a acquise. Voilà. Et que ce n'est pas là un des sens de stato politique, politique et militaire, qu'on va voir dès qu'on va aborder Machiavel et Guichardin. On n'est pas encore là. Voilà. Je l'énonce aussi simplement que ça. C'est sous réserve d'inventaire. Mais je ne crois pas me tromper, là. Je ne crois pas me tromper. Alors, deuxième remarque, là. Si deve provvedere che tale signore non possa diventare tiranno. Hein, donc, vous voyez que hein, là, il revient. Là, il est en plein dans les... dans la bonne orthodoxie, hein, savoir que il n'y a pas qu'un seul individu qui peut être le tyran. Le gouvernement de peu peut être tyrannique, le gouvernement de beaucoup peut être tyrannique. Le Grand Conseil peut devenir un instrument de tyrannie si ce sont les mauvais, les méchants, les cattivi uomini qui l'emportent en son sein. Hein. Uno consiglio buono per la malizia dei cattivi può diventare cattivo e tirannico. Et alors là, donc là aussi, il faut prévoir d'exclure les méchants, etc. Et surtout, et là c'est un point qui vous rappellera des remarques qu'on a faites au moment où on parlait de l'histoire de Florence, de ces années-là et des années antérieures, d'avant 1494. Attention qu'on ne puisse faire des intelligences, hein, donc, voilà, des liens secrets, des complots. Le mot intelligence en français classique avait le même sens, hein, des intelligences. Hein. C'est-à-dire que les gens qui se comprennent entre eux, quoi. Hein, c'est de... Voilà. Et au-delà des intelligences, c'est encore plus simplement qu'il faut se méfier des gens qui demandent les faves, hein, qui demandent qu'on vote pour eux au moment où il y a les votes, quoi, hein, qu'on vote pour eux ou pour une loi qu'il aurait. Voilà. Si on fait attention, etc. Si on fait attention, ça ira, mais il y a ce risque, hein, que le Consiglio Grande tombe nelle mani dei cattivi uomini. Hein, voilà. Et enfin, dernier point de commentaire, il est sur, terzo, bisogna provvedere che non sia troppo aggravato, hein, c'est-à-dire qui c'est, etc. Bon, faut que ça soit bien organisé pour que ça prenne pas trop de temps, hein. De nouveau, le pragmatisme savonarolien là est très présent. C'est-à-dire que, il savait qu'il pouvait pas dire la cause de la tyrannie, c'est la richesse. Et là, il sait qu'il peut pas dire faut que vous soyez tous les jours que le bon Dieu fait réunis en conseil parce que faut qu'ils s'occupent de leurs affaires justement. Hein? Donc, il faudra bien organiser. Bon, alors, il dit là-dessus, je pourrais en dire plus et rentrer dans les détails, venir plus au particulier, mais vous le ferez très bien tout seul, vous le ferez très bien tout seul. Et là, vous retrouvez l'expression, hein, là, vous l'avez, là, cette idée du pragmatisme, de la mesure dans les choses, qui est quand même pas l'idée qu'on se fait de Girolamo Savonarola, hein. Vous saurez provvedere a ogni cosa, a poco, imparando ogni giorno meglio per la esperienza. Hein? Ouais, vraiment, une démarche. Machiavel dirait uomo rispettivo, pas uomo impetuoso, hein? Dans cette fameuse terminologie employée dans le chapitre 25 du Prince. C'est ça qu'il dirait. Hein? C'est rispettivo. Uno che va, lui, il dit marche par marche. Scaglione a scaglione. Hein? Scaglione a scaglione. C'est pas dans le Prince, c'est dans un texte qu'on appelle I Ghiribizzi. Enfin, c'est pas exactement là, mais c'est dans un ensemble de textes autour des Ghiribizzi al Soderini. Al Soderini. Et dans ce texte-là, il y a un échange de lettres autour de cette lettre-là. Et il y a cette expression andare, hein, scaglione a scaglione. Scaglione a scaglione. Marche par marche, quoi. Et c'est ça qui propose Savonarole, c'est d'aller marche après marche, hein, degré après degré. Pas vouloir voler d'un coup au truc. Alors. Et il leur dit, io non vorrei accedere li termini del stato mio. Hein? Bien. Non vorrei accedere il mio ufficio. Mon office, c'est de vous dire les choses qui peuvent vous servir pour aller dans le chemin voulu par Dieu, mais faut pas que j'aille au-delà de ce qui est permis par lo stato mio. Hein? L'état religieux, là, il n'y a pas de doute. Hein? La situation de religieux. Le stato religioso, hein, qui est l'autre emploi assez fréquent de stato dans le Trattato circa il reggimento del governo. Hein, si vous allez regarder le texte avec les instruments d'analyse linguistique, vous verrez assez clairement. Alors, chapitre 2, alors là, il y a pas de rien de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, ben, faut faire ce qu'il y a à faire, hein. Timore di Dio, amare il ben comune, amarsi insieme, lasciare tutti gli odi e far giustizia. Si on fait tout ça, hein, et si on considère les choses col judicio della ragione, c'est bon, et dans le jugement dernier final, vous serez à la droite du Père, et les autres seront dans le plomb fondu, bien fait pour leur gueule. Voilà. Donc là, tout va bien. Alors là, sur ces points-là, quelques commentaires, mais vous voyez que la mise en place, hein, est extrêmement intéressante. C'est intéressant cette formulation de considérer ces choses diligentemente, bon, ça c'est. Mais col judicio della ragione, en vous rappelant que cette raison, elle a laissé de côté une question qui n'est pas sans importance, qui est la question du conflit et de la guerre et de la violence. C'est quand même une des raisons de la chute. C'est que la ragione ne pouvait pas s'appliquer à ces questions de la force. La forza. Alors, Donc il s'agit donc de réaffirmer que ce concile civile et gouverne, hein, redéfini encore précisément, donc, pour lequel on a donné des lignes d'amélioration, etc., est un don de Dieu. Il est stato mandato da Dio. Non seulement parce que tout gouverne, tout ce qui advient au monde advient parce que Dieu l'a voulu, mais per speciale providenza, che a Dio al presente della città di Firenze. Et l'histoire des 3 années depuis l'arrivée des Français le démontre à l'évidence. Hein, le démontre à l'évidence. Celui qui n'est pas aveugle et totalement senza judicio, sens judicio della ragione, qui demande justement qu'il faut appliquer, hein, eh bien, ne peut que constater que questo concilio civile governo essere stato mandato da Dio. Hein. Évidemment, ce sera effectivement des gens senza judicio qui vont, parce qu'eux, ils ont considéré la question de la force, hein, qui vont se débarrasser de notre frère Jérôme. Et vous rappelez que ça ne sera rien d'autre que ce que dira exact, très précisément le syntagme. Les prophètes armés ont vaincu, tous les prophètes désarmés ont perdu. Hein? Comme il fu da noi, frate Girolamo sonoro, prophète désarmé. Bon, alors faut y aller voir de plus près, hein, et pas se contenter, mais en tout cas, c'est clair que c'est une des raisons. Hein, que là, on l'a complètement en pointillé, hein, mais assez nettement, avec cette exclusion du judice della ragione, de la force, et l'exclusion des ennemis comme n'ayant pas ce judicio-là. Et une des raisons, c'est précisément qu'eux, ils pensent la question de la force et de la, hein, et de la violence. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner sa perfection au gouvernement? Là, ce qui est intéressant, c'est le nom Timore di Dio, là, il n'y a pas de doute. Ben comune la città. Et là, il reprend un point dans le point 2. Hein, amare il ben comune, s'aimer ensemble, bisognerait que les cittadini si amassino insieme et la chasse tutti gli odi. Il reprend un grand point de l'historiographie catholique à propos de pourquoi Dieu a donné un tel pouvoir à l'Empire romain, alors même que il reconnaissait pas la nouvelle, puisque de toute façon la nouvelle n'était pas. N'était pas encore arrivé jusqu'à tardivement. Hein, que même après, ils reconnaissent, mais vraiment tardivement. Hein, ils attendent plusieurs siècles avant d'entendre la nouvelle. Hein. Et là c'est à la fois la tradition d'Augustin, la tradition d'Augustin et la tradition de Thomas. Alors, bon, on va prendre Thomas, puisque évidemment, donc il y a tout un chapitre, enfin en tout cas la tradition thomiste, puisqu'en fait c'est un des passages qui n'est pas écrit par Thomas d'Aquin, mais par Ptolémée da Luca, hein, mais qui vraiment traîne partout dans la réflexion catholique. Hein, Dominium Romanum fuit a Deo provisum propter zelum patriae. Hein, pourquoi? Il leur a donné, hein, un tel pouvoir, un tel empire, hein, un tel dominium, eh bien, propter zelum patriae. Propter zelum patriae. À cause de leur ardeur envers la patrie, de leur zèle envers la patrie, de leur amour extrême envers la patrie. Hein, voilà. Et ça, c'est De regimine principum 3, 4. Voilà. Et dans ce même chapitre, hein, une autre. Donc, pourquoi? Molto amavano il bene comune della città. Voilà. Hein. Et deuxième raison pour laquelle Dieu les a récompensés parce que si amavano insieme stavano in concordia. Si amavano insieme stavano in concordia, c'est donc la troisième chose à avoir, que les citoyens s'aiment entre eux et laissent de côté les haines. Alors, troisième raison, et là c'est un tout petit peu, ça oblige un tout petit peu plus de commentaires. Quarto, bisognerie che facessino giustizia. Hein, on a déjà vu là, à plusieurs reprises venir à la question des leggi fortissime. Hein, là, fare giustizia. Perché la giustizia purga la città dalle cattivi uomini o li fa stare in timore. Hein, donc, elle en débarrasse la cité, donc vous pouvez imaginer les diverses formes de débarras, l'exil ou la mort. Hein, ou, et là ça devient plutôt calme, dans li fa stare in timore. Hein, donc, pas purger, parce qu'on, évidemment, si on est purgé, là c'est pas bon, quoi. Hein, c'est pas bon, on se retrouve mal barré. Voilà, donc, justitia. Hein, et là, vous voyez, un tout petit paragraphe. Bisognerie che facessino giustizia, perché la giustizia purga la città. Perché sono eletti dell'indignità volontieri da chi ama la giustizia, la quale la città per questo si riempie di virtù, la virtù sempre è premiata dalla giustizia. I buoni uomini si congregano volentieri dove abita la giustizia, e Dio per questo poi ancora dilato lo imperia come fece agli Romani, agli quali ancora per questa ragione, troisième raison, pour laquelle Dieu aimait bien les Romains, cioè perché erano severi in fare giustizia, dettelo imperio dell'universo, volendo che i suoi popoli fossero retti con giustizia. Là, on pourrait lui dire, comme il fait dire un interlocuteur fictif dans un de ses sermons du 19 février 1497, et dans ce sermon, hein, il feint d'être interrompu par un Florentin qui lui dirait « Oh frate, tu solevi dire misericordia, ora tu dis justitia ». Donc c'est très clair que là, hein, il n'écrit plus « misericordia », il écrit « justitia ». Alors, misericordia et justitia, c'est deux, évidemment, l'application dans le domaine du gouvernement des hommes de deux fondements du gouvernement divin, hein, governo et misericordia et justitia. À la misericordia, et là c'est vraiment de la théologie de base, quoi, hein, alla misericordia si appartiene tollerare i peccati degli uomini, aspettarli e chiamarli a penitenza suavemente e poi gloriosamente premiarli in vita eterna. Hein? Misericordia di Dio, perché Dio sa che queste creature, c'è lui che le ha fatte, elles sont faibles, etc. Donc il faut les tolérer, les péchés qu'elles vont faire. Il faut convaincre, les faire convaincre. Il faut leur faire faire pénitence suavement, les faire venir vers le bien, etc. Voilà. Alors, il y a aussi la justice divine. Ça, c'est la miséricorde divine. À la justice, il appartient à far male ai cattivi, che non vogliono convertirsi al bene. Hein? Puisque le point de départ, c'est la méthode miséricorde. La méthode miséricorde, c'est voilà, tu as péché, mais ne pêche plus. Enfin, c'est la méthode de Jésus avec la femme adultère. Hein, de Jésus avec la femme adultère. Voilà, va et ne pêche plus. Hein, la justice, c'est lui balancer les pierres dessus. Hein, la miséricorde, c'est de lui dire va et ne pêche plus. Hein, en rappelant précisément que tous les hommes sont des pécheurs, puisque ce qu'il dit pour arrêter la lapidation, hein, vraiment des exemples là, de la miséricorde, ce qu'il dit pour arrêter la lapidation, c'est que celui qui n'a jamais péché, eh bien, lance le premier la pierre. Et tous les assistants s'en vont, le texte disant les vieux d'abord. Ils ont péché plus. Plus longtemps. Hein, ouais. Ça, c'est une hypothèse de lecture. La deuxième, c'est ils comprennent plus vite. Je vous laisse cette interrogation théologique à résoudre. Vous me ferez un argumentaire pour la semaine prochaine. Alors, giustizia. Alla giustizia appartiene far male a cattivi che non vogliono convertirsi al bene, farli cooperare ogni cosa in male e finalmente punirla con perpetua dannazione loro. Ma, aggiunge-t-il, ma sempre abbonda più in queste operazioni la misericordia che la giustizia e la misericordia di Dio sempre assorbe e copre gran parte della giustizia. Voilà. Et donc, dans le premier temps de sa prédication, par exemple, dans un des sermons de novembre 1994, celui que je viens de vous citer est du 9 novembre 1494, et dans ce même sermon, il applique ses remarques d'ordre généraux, ses remarques générales sur la façon dont Dieu traite les hommes, à Florence, credi a me Firenze, che egli è tempo a fare misericordia. E Dio t'ha dato l'esempio facendoti misericordia che tu ne facci ad altri. Et là, non far sangue Firenze, ça c'est la miséricorde. Rapidement, ce qu'on va avoir, c'est non pas... Tiens, c'est marrant, non, j'ai dû faire une connerie. J'ai fait un entier, d'accord. Ok, j'ai fait une connerie, c'est pas grave. Tais-toi. Bon, laissons tomber. Donc il y a un changement, et là on est au terme du changement, hein, dans cette récurrence de fai justizia, hein, bisogna che si punisca rigidamente, etc. Hein. Et donc là on est vraiment du côté d'un moment où on ne dit plus miséricordia, on dit justizia. Bon, c'est quasiment vu là, c'est quasiment l'ensemble est à peu près vu, puisque le troisième chapitre est, comme je vous l'ai déjà annoncé, donc le chapitre de la mise en place, hein, dans une sorte de jugement dernier écrit, hein, dans ce texte, d'un côté tous les malheurs, de l'autre tous les bonheurs. Hein. D'un côté, pour ceux qui auront choisi, hein, de soutenir le gouvernement civil, d'aider à dare perfezione au Consiglio Grande, eh bien, felicità terrena, spirituale et eterna, de l'autre, qui vuole essere tiranno, eh bien aura infelicità terrena, infelicità spirituale et infelicità eterna. Hein? Ah, non. La mise en place est totale. La mise en place est totale. Et voilà, là, ça fait référence à une série de chapitres, hein, chapitre 9 et 10 du De Regimine Principum. Bloqué. Donc, c'est dans les chapitres, donc livre 1, chapitre 9, là aussi, hein, l'idée que ceux qui dirigent les autres mérite plus de louanges. Hein. Il faut d'autant plus de vertu qu'on n'a plus d'hommes à gouverner. Plus grande est la vertu, plus grande sera la béatitude. Tout ça est très clairement écrit dans le De Regimini Principum. Et il n'y a pas de doute que d'un côté, hein, que ça, cette idée que il faut simplement. Vous voyez bien que là, il y a quand même. On est à la fois dans l'orthodoxie et dans l'orthodoxie qui là s'appliquait dans le texte de Thomas et s'appliquait au roi. Hein, et s'appliquait au roi. Et là, il y a quand même un petit abus sémantique qui fait du signore un ensemble qui est le Consiglio Grande, un ensemble de nombreux citoyens. Hein. Et il applique tout ce qui est là sur. Alors là, tout y est, quoi. Donc la vertu royale porte la ressemblance de Dieu. Voilà. C'est confirmé par l'autorité divine que. Les rois ayant fait œuvre divine à l'égard du peuple seront plus proches de Dieu et lui adhéreront de plus près. Ensuite, cette grande récompense proposée au roi dans la béatitude céleste, elle va de pair avec les maux qui seront ceux des tyrans qui abandonnent la justice. Hein. Avec les mêmes argumentations, ils n'ont pas l'amitié, etc. Enfin, bon, voilà. Hein. Donc tout ça, d'un côté la béatitude du roi, de l'autre, hein, eh bien, le contraire pour le tyran, hein, l'enfer pour le tyran, les cruautés, les épreuves pour le tyran. Ouais. Alors on a pareil, sauf qu'il y en a, à la place du roi, le Consiglio Grande, hein, et les partisans du Consiglio Grande, et de l'autre, là, voilà. Vous voyez qu'il y a cette mise en place intéressante. Donc d'un... Je crois que l'image du jugement dernier, elle est assez juste là sur le. Hein. Donc simplement, donc, les références, donc le De Regimine Principum, donc c'est dans le livre 1. Et c'est les chapitres 9, 10, ou dans l'autre numérotation, 10, 11, hein, sur le roi et les tyrans. Voilà. On est arrivé au terme de cette élucidation. On abordera ensuite, dans les prochains cours, la question donc du prince de Machiavel.